7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin. Il est 8h44. Nous sommes toujours le 28 mai. Tout se passe bien. Et puis cette matinale commence à être un tout petit peu fatigante pour moi à la longue, donc je crois que je serai relevé quelques minutes durant par Magda Hautefeuille. Simplement donc à 8h57 la chronique de Ludovine de la Rochère, à 9h05 soyez bien présents parce que on va recevoir Jean Messia à qui on va justement opposer toutes les accusations qui pèsent sur lui. On va lui demander des réponses pour savoir ce qu'il en dit. Tout de suite, c'est la chronique de Jean-Luc Ganin.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Nous retrouvons donc Jean-Eudes Gana ce matin. Bonjour Jean-Eudes, je rappelle que vous êtes conseiller municipal de Segré en Anjou Bleu, porte-parole du mouvement Chouan. Pour ceux qui vous découvriraient ou qui découvriraient la ligne droite ce matin, comment allez-vous ?
Bien et vous ? Bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs.
Alors écoutez, moi ça se passe très bien. Alors de quoi est-ce que vous vouliez nous parler aujourd'hui ?
Écoutez, en vrac, je voulais vous parler de à la fois du pèlerinage de Chartres et puis de la notion de chrétienté. Voilà, j'étais au pèlerinage de Chartres ce week-end. Je ne sais pas si vous y étiez également.
Alors moi non, j'avais pas cet honneur, mais mes collègues y sont allés pour moi.
Ah ouais, très bien. Mais j'espère qu'ils auront prié pour le salut de votre âme.
Voilà.
En tout cas, j'y étais ce week-end. Ça faisait des années que je n'y étais pas allé et j'ai été comme la plupart des participants. Absolument enchanté et ravi d'avoir participé. Pour moi, c'est un écho tout particulier puisque mes parents font partie des tout premiers pèlerins de Chartres et m'ont raconté bien souvent qu'en 1983, lors du premier pèlerinage organisé par Notre-Dame de Chrétienté, qui n'était pas encore, je crois, Notre-Dame de Chrétienté, il n'était que quelques centaines, tandis que nous étions 25 000 pèlerins, toutes tendances confondues ce week-end, puisque vous ne l'ignorez pas, il y a des gens qui marchent de Chartres à Paris. Mmh. Aux côtés de la fraternité Saint-Pédis, et nous étions, nous, 20 000, je crois, avec Notre-Dame de Chrétienté. Alors, franchement, bien souvent sur la route, je me suis dit, c'est quand même une petite preuve, mais une preuve tout de même de l'existence de Dieu. Pourquoi tant de monde sur les routes ? Pourquoi tant de gens qui acceptent de souffrir par 30 ou 35 degrés et de marcher autant de kilomètres et de payer pour ça ? Parce que j'ai vu un stupide internaute dire... sur Internet, Joule remplit des salles de concert avec 40 000 personnes et on n'en fait pas tout un pataquès comme ce pèlerinage. Voilà. Et quelqu'un a répondu avec beaucoup d'humour et de sagacité. Enfin, s'il fallait marcher sans bornes en plein cagnard pour aller au concert de Joule et payer pour ça, je ne suis pas sûr que ce soit grand monde. Voilà, donc il y a de fortes chances que Dieu soit plus attirant que Joule et qu'il parle beaucoup plus à l'âme d'un certain nombre de nos concitoyens. Voilà. Alors, bien sûr... on peut se dire aussi qu'il y a un côté camaraderie, exploit sportif, et que ça n'est pas seulement la preuve que tous les pèlerins sont portés par l'amour de Dieu, mais quand même, 3000 personnes qui abandonnent à cause de la chaleur, pas loin de 600 hospitalisations, m'a-t-on dit, des milliers et des milliers de litres d'eau, d'ampoules. On peut parler de défis et de camaraderie, mais il y a surtout, je crois, une pluie de grâce et de conversion. Et des milliers de riverains, totalement interloqués par ce témoignage vivant. Voilà.
Écoutez, vous savez, Jean-Eudes, j'en ai été un parce que pour être tout à fait franc avec vous, le samedi matin, en allant tout bonnement faire mes courses, habitant sur l'avenue à côté de l'avenue du Général Leclerc, je tombe sur des centaines de personnes effectivement en train de chanter que ce soit des chants catholiques ou alors des chants français de manière générale. Je vous avoue que sur le moment, au réveil, ça a été un petit peu surprenant.
Voilà, pendant que vous alliez bassement consommer, voilà. Alexandre, d'autres marchaient pour la chrétienté.
Merci pour la culpabilisation.
Parfois, j'ai tendance à critiquer, même sur vos ondes, les catholiques français. Je m'agace de leur apathie dans la vie publique. Mais chaque année, lors de ce pèlerinage, franchement, ils incarnent vraiment et publiquement à la fois leur foi et leurs idéaux. Et chaque fois, je crois que c'est un tsunami spirituel pour des milliers de riverains, ou d'internautes d'ailleurs, qui découvrent ces images. C'est surtout la preuve que rien n'est fichu, parce que tant qu'il reste quelques dizaines de milliers de personnes à incarner tout ça, je crois que tout est possible. Mmh. Et surtout, a fortiori, lorsque année après année, ils sont de plus en plus nombreux. Voilà. Donc, bien sûr, j'en profite pour remercier Notre-Dame de Chrétienté pour ce magnifique pèlerinage, sa logistique impeccable, les efforts déployés avec les autorités administratives et religieuses pour permettre cet événement. Je propose d'ailleurs qu'on s'attarde un peu sur ce terme de chrétienté, qui devrait être l'horizon, finalement, l'horizon politique des catholiques français ou de tous les patriotes français. Alors, il y a bien sûr une distinction entre le spirituel et le temporel hein, dans notre civilisation. Depuis toujours, ça remonte tout simplement au Christ, qui est Dieu lui-même, qui incitait à rendre à César ce qui était à César et à rendre à Dieu ce qui était à Dieu. Mmh. Et il y a un très bon livre, d'ailleurs, qui me revient là en tête de mes années de droit. Pourtant, j'ai été un très mauvais étudiant. Mmh. Un livre du professeur Harwell, qui s'appelle « Le vrai génie du christianisme » sur ce sujet très intéressant de la distinction entre le temporel et le spirituel. Voilà. Mais... pourquoi je parle de ça? Tout simplement parce que même si les catholiques ne doivent évidemment pas lutter pour une théocratie qui est absolument étrangère à notre conception à la fois de l'homme et de la politique, ils ne doivent pas non plus se contenter de lutter pour un régime bêtement conservateur sur les histoires de braguettes, mais impuissant et muet sur le reste. Voilà. Mmh. Défendre la chrétienté, ça passe par défendre une conception chrétienne du bien commun avec avoir en arrière-plan intellectuel le salut des âmes, mais aussi par défendre une identité. Parce que, bien sûr, si on se contente de défendre seulement l'identité ethnique de l'Europe, et c'est ce que nous reprochent certains cathos de gauche qui sont persuadés que les catholiques identitaires ne sont pas du tout intéressés par le spirituel, eh bien, on passe à côté, si on se contente de faire ça, on passe à côté de l'objectif final, hein, qui est la réalité spirituelle du pays et le salut des âmes. Mais si, comme beaucoup trop de catholiques, on occulte le côté identitaire, l'identité ethnique, on rend impossible cet objectif final du bien commun et du salut. Parce que pour qu'il y ait une chrétienté fonctionnelle, pour qu'il y ait des sociétés harmonieuses, en paix, qui puissent concourir au salut des âmes, il faut une certaine homogénéité ethnique. Sans quoi, on prend le risque quasi inéluctable d'une guerre civile ou de conflits raciaux. Il n'y a rien de plus dangereux pour le salut des âmes que cette espèce d'état de guerre permanent dans lequel nous sommes d'ailleurs actuellement. Mmh. Parce que qu'est-ce qui alimente les haines?
Mais déjà, pardon, justement, j'allais dire, Jean-Luc Gallin, au-delà du salut des âmes, même le salut des êtres, tout simplement, dans le sens où l'Église elle-même a vocation non pas seulement à s'occuper de nos âmes, mais aussi à s'occuper de la société et notre bien-être.
Oui, bien sûr. Non, mais ça me semble une évidence. Et je parle j'ai parlé de chrétienté fonctionnelle. Bien sûr, par là, j'entendais le bien-être des gens, en fait, qu'ils soient croyants ou non. Et d'ailleurs, ce qui a permis l'essor de la chrétienté, finalement, malgré sa chute, c'est l'Empire romain et la Pax Romana. Mmh. Ce qui permet qu'une société fonctionne, c'est avant tout la paix, c'est la prospérité à laquelle vient se surajouter, bien sûr, une dimension spirituelle. Voilà. Et ça, c'est absolument impossible dans l'espèce de goulbi-goulba multi-ethnique qu'on est en train de nous préparer et auquel concourt, hélas, un certain nombre d'évêques ou de religieux de gauche qui ne voient pas du tout la réalité de ce que vivent un certain nombre de Français. Et c'est là qu'on a un certain nombre de points communs avec Jean-Yves Le Gallou, qui n'est, je ne crois pas... une grenouille de bénitier, sauf si j'ai loupé une étape.
Non, effectivement, vous êtes à jour, je crois.
Et je salue Jean-Yves qui était juste ici, juste avant moi, parce que je suis précisément en train de lire son livre sur la remigration qu'il a eu la grande courtoisie de m'envoyer il y a plusieurs semaines déjà. Et cette remigration doit être un objectif, un impératif absolu pour tout le monde. Voilà, pèlerin de Chartres compris, on ne peut pas se contenter comme le disait Madiran, de se prendre pour des êtres désincarnés que les réalités politiques ne concernent pas, qui seraient intéressés uniquement par le spirituel. Parce que la réalité, c'est que si cette remigration n'advient pas, eh bien, nos sociétés sont absolument fichues. Et vous savez, je l'ai déjà fait à votre antenne, je fais très souvent ce parallèle. Ceux qui veulent ou ceux qui croient qu'on peut se contenter d'arrêter les flux migratoires pour arrêter l'immigration se trompent. C'est exactement comme si l'on disait qu'il suffisait d'arrêter la progression du chômage pour régler le problème du chômage. Si l'on arrête la progression du chômage et qu'on conserve 6 millions de chômeurs, il y a encore un immense problème de chômage en France. Eh bien, si l'on arrête les flux migratoires mais qu'on ne les inverse pas, eh bien, encore un énorme problème d'immigration parce que il y a encore beaucoup trop d'étrangers non assimilés. Voilà. Donc, être véritablement contre l'immigration, c'est être pour la remigration.
Alors oui,
parce qu'être contre l'immigration et conserver les immigrés, c'est être pour l'immigration. Voilà. Et c'est l'immense problème d'un certain nombre de partis politiques de droite.
Alors, on a pas mal dérivé depuis le pèlerinage de Chartres, il me semble, de Gada, mais finalement, vous revenez à votre tropisme beaucoup trop rapidement. Non, mais plus sérieusement, d'une certaine façon, justement, enfin, je reviens pour le coup de mon côté sur le pèlerinage de Chartres. Est-ce que il faut l'interpréter comme une sorte de nouvelle génération, quelque part, catholique et identitaire, qui n'était pas présente jusqu'ici en France, ou alors extrêmement résiduelle, ou alors est-ce qu'il faut plutôt l'interpréter selon, on va dire, plutôt exclusivement son prisme catholique, ce pèlerinage de Chartres? Parce que évidemment, la question, c'est est-ce que ce serait pas l'instrumentaliser quelque part que de l'interpréter de manière politico-identitaire, etc.
Non, en fait, les deux, mon capitaine. Les journalistes de gauche ne se trompent pas totalement lorsqu'ils essayent de pointer le vote RN chez les catholiques à propos du pèlerinage de Chartres. J'ai vu que France Info avait fait un sujet. La réalité, c'est que beaucoup de jeunes participants au pèlerinage de Chartres y viennent parce qu'ils sont dans un état de désespérance identitaire et spirituelle, parce que je crois que ça va un peu de pair. Alors, bien sûr, le pèlerinage de Chartres, c'est une œuvre catholique, spirituelle avant tout, mais si le nom de ce pèlerinage, c'est l'association qui organise, c'est Notre-Dame de Chrétienté, c'est aussi parce que au-delà du salut individuel de chaque participant, il y a un objectif derrière qui est la chrétienté. C'est pour ça que j'ai dérivé sur l'immigration et l'identité. Et la chrétienté, ce n'est pas seulement le salut individuel de chacun qui est la priorité de tout individu, hein, d'aller au ciel, c'est aussi un projet de société. Voilà. Et ce projet de société a des conséquences sur le côté identitaire de chacun d'entre nous également. Voilà. Et donc, bien sûr que les pèlerins viennent soit parce qu'ils sont convertis, soit parce qu'ils sont en train de se convertir, hein, pour beaucoup chez les jeunes. Moi, je connais des gens qui sont venus marcher qui ne croyaient pas en Dieu. Et bien sûr qu'il peut y avoir une quête d'identité, mais elle est liée au fait que le monde moderne n'apporte pas un certain nombre de réponses aux gens, et que cette quête d'identité est souvent doublée d'une quête spirituelle. Et ce que je veux dire par là, c'est que il y a des conversions identitaires qui sont incomplètes, parce qu'il y a des gens qui deviennent chrétiens parce qu'ils voient les musulmans en face. En gros.
Oui, oui, oui.
Mais très souvent, il ne faut pas mépriser ces conversions-là, parce qu'en fait, très souvent, elles aboutissent, ou alors elles sont les prémices, ou alors elles sont même la conséquence de conversions spirituelles. Voilà. Je crois que chez beaucoup de gens, étant donné l'état de déliquescence de nos sociétés, ces deux choses vont de pair, et qu'il ne faut pas mépriser ça, à condition, bien sûr, que le christianisme ne soit pas, comme on le voit chez certains chrétiens orientaux, seulement un étendard identitaire, parce que ça ne peut pas être ça.
Merci beaucoup, Jean-Louis de Gana, d'avoir été avec nous ce matin, ici sur Ligne Droite. On vous dit, bien sûr, à jeudi prochain. Merci. Tout de suite...
Ligne Droite.
Tout de suite, je laisse quelques minutes l'antenne à Magda Hautefeuille.
Bonjour, Ludovine de la Rochère.
Bonjour, Magda.
Alors, aujourd'hui, vous allez... de quoi allez-vous nous parler?
Alors, d'une réunion tout à fait inattendue, qui a eu lieu à l'ONU, et puis d'autre part, de la question de la fin de vie. Alors bien sûr, vous ne le savez pas, mais je travaille sur les enjeux de société, comme on dit pudiquement, depuis 25 ans. Avant la Manif pour tous et le syndicat de la famille, j'étais donc déjà impliquée dans ces combats pour le respect de la personne et pour la protection du corps social. Et c'est bien ce qui m'a conduit d'ailleurs à fonder ces mouvements. Tout cela pour vous dire que j'ai tout de même le cœur bien accroché. Ayant eu à connaître à peu près toutes les folies possibles et imaginables en termes de revendications sociétales et de délires idéologiques. Et pourtant, une fois de plus, j'ai été surprise. J'ai participé en effet tout récemment à une réunion organisée par une rapporteure spéciale des Nations Unies. Nous étions une vingtaine de responsables ou représentants d'ONG, hommes et femmes, de divers pays et continents. Le thème en était les violences faites aux mères. Alors que le sujet porte sur les mères est une excellente nouvelle. Le féminisme, en effet, n'aime pas du tout la maternité, au point de ne presque jamais l'évoquer, si ce n'est au sujet de l'avortement. C'est donc tout à fait remarquable que l'ONU, qui est très imprégnée de ce féminisme, s'intéresse aux mères. Mais la première question posée par la rapporteure spéciale lors de cette réunion a été « Qu'est-ce qu'une mère ?» Une question très surprenante, car on aurait pu penser, évidemment, que malgré toutes les dérives que j'évoquais, nos contemporains, l'ONU, savent encore tout de même ce qu'est une mère. On aurait pu penser qu'il n'y avait pas besoin d'une heure et demie pour se dire ce qu'est une mère. Nous avons tout de même tous une mère, et y compris tous les dirigeants de l'ONU et les participants à cette réunion. Cela étant dit, il est vrai que notre société ne sait plus bien ce que sont un homme et une femme. Elle peine donc à dire aussi ce que sont un père et une mère.
Et alors, les participants sont-ils finalement parvenus à dire ce qu'est une mère ?
Eh bien, je dois dire que pour définir le terme de mère, la discussion a été longue et parfois même tendue. La première réponse de l'un des responsables fut qu'une mère est une personne qui se sent mère. Vous noterez que le terme de femme est évacué et que tout est dans le ressenti. La réunion commençait difficilement, vous le voyez. Un autre a répondu qu'une mère peut être la compagne d'une mère. Par exemple, lorsque deux femmes ont décidé ensemble de recourir à une PMA, une procréation médicalement assistée, avec tiers donneur, c'est-à-dire avec donneur de sperme. Ainsi, le fait qu'une seule, évidemment, une seule des deux femmes, ait attendu et mis au monde l'enfant, ne ferait pas de différence avec sa compagne. Alors que la découverte, la grossesse, la découverte de la maternité, de la conception de l'enfant, la grossesse, l'accouchement, la maternité sont des événements immenses dans la vie d'une femme, ils sont passés sous silence, comptés pour rien. Seule la volonté d'être mère rendrait mère. Là encore, tout est dans le ressenti. Et donc, les deux femmes qui élèvent l'enfant seraient toutes les deux sa mère. Une réunion étonnante, comme je vous le disais, Magda. D'autres intervenants, cependant, ont eu des réponses très intéressantes. Une responsable d'ONG disait ainsi qu'une femme est mère dès la conception de l'enfant. Autrement dit, une femme enceinte de son premier enfant est déjà mère, même lorsqu'elle l'ignore encore. La langue française, d'ailleurs, parle de future maman pour une femme enceinte. Mais vous le voyez, c'est discutable. L'enfant est déjà bien là, de fait. Cette remarque a ouvert des questions. Une femme qui a fait une fausse couche est-elle mère ? Et une femme qui a avorté est-elle mère elle aussi ? Alors le dictionnaire que j'ai regardé par curiosité indique, lui, qu'une mère est une femme qui a eu un ou plusieurs enfants. Cela semble clair. Mais vous le voyez, ça ne l'est pas tout à fait en réalité. Que dire d'une femme, par exemple, dont l'enfant meurt in utero juste avant la naissance ? Vous vous direz sans doute que sa souffrance est bien celle d'une mère, qui malheureusement n'a pas pu vraiment prendre son enfant dans les bras. On peut ainsi dire qu'une mère est une femme qui a attendu et mis au monde un ou plusieurs enfants, qu'ils vivent ou non. Mais je compléterai volontiers en soulignant que la maternité implique aussi bien le fait d'engendrer que d'aimer. Et j'ajouterai donc que les femmes qui adoptent un enfant parce qu'ils étaient orphelins de mère sont bien mères elles aussi.
Et alors, Ludovine de la Rochère, pourriez-vous nous dire où nous en sommes depuis la semaine dernière sur la proposition de loi visant à légaliser l'injection létale ?
Merci de votre question, Magda, très pertinente. En effet, tant ce sujet est crucial. Alors, à ce jour, le Conseil constitutionnel ne s'est pas encore prononcé sur le projet de référendum sur la fin de vie. Il a jusqu'au 18 juin, donc rien d'anormal. En revanche, la date de la commission mixte paritaire a été fixée hier. Donc là, je suis repartie au Parlement et elle aura lieu mardi 2 juin après-midi. C'est une mauvaise nouvelle parce que toute étape franchie par la proposition de loi euthanasie est une avancée dans le mauvais sens. Alors cependant, la question vraiment cruciale est la suivante. Après l'échec inévitable de cette CMP, y aura-t-il directement le dernier mot pour l'Assemblée nationale ou y aura-t-il d'abord une troisième lecture dans les deux chambres ? Dans ce cas-là, le Sénat acceptera-t-il et fera-t-il de la place avant la fin juillet à cette troisième lecture ? Évidemment, l'Assemblée nationale le souhaite, mais la question se pose du côté du Sénat. Or, pour le moment, Gérard Larcher s'y refuse. S'il maintient son refus, il est clair que cette troisième lecture après la rentrée de septembre ne sera pas possible. Et c'est précisément ce qui terrifie les activistes de l'euthanasie. Alors pour finir sur ce sujet, je voudrais vous inviter à lire la lettre ouverte à Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu, qui est parue hier dans le Figaro. Une très belle lettre, dont l'auteur est un certain Louis-Benoît Barthes, un homme de 66 ans, père et grand-père, qui est atteint de la maladie de Charcot depuis un an et demi environ. Cette maladie, qui est terrible, fait peur. Et elle est le prétexte, le cas, l'exemple donné depuis des années pour justifier d'une prétendue nécessité de légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Comme si, face à cette maladie, la seule réponse possible était de donner la mort. J'invite donc les auditeurs de Radio Courtoisie à lire cette lettre, véritablement bouleversante.
Merci beaucoup, Ludovine de la Recherche.
Merci, Magda.
Ligne droite, l'analyse.
Et pour cette analyse, nous retrouvons Jean Messia. Jean Messia, bonjour. Est-ce que
bonjour,
vous êtes bien
Alexandre.
Avec nous?
Oui, je suis avec vous.
Alors aujourd'hui, bon, on va parler de sujets graves, quelque part, de sujets sérieux, parce que là, effectivement, actuellement, vous êtes au cœur d'une polémique particulièrement importante qui... quelque part est assez grave, hein, il faut le dire, c'est-à-dire que les accusations qu'on porte contre vous sont effectivement pas des accusations légères, pas tellement sur le plan judiciaire d'ailleurs que sur le plan moral dans le fond, parce que on vous accuse, Jean Messia, d'avoir détourné plusieurs dizaines de milliers d'euros. En réalité, donc, ce dont vous êtes accusé, c'est d'avoir créé une cagnotte qui devait servir donc à soutenir les victimes, les familles des victimes et bien de l'affaire Mohamed Amra. Vous auriez récolté donc 42 000 euros via une plateforme de cagnotte, 42 000 euros qui n'ont pas été reversés aux familles des victimes comme c'était prévu à l'origine et qui auraient été versés sur votre propre compte. Alors, Jean Messia, en l'occurrence, ça veut dire que, pour le coup, vous êtes accusé d'avoir utilisé des cagnottes et donc l'argent de patriotes qui souhaitaient soutenir ces familles des victimes pour votre propre compte. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
D'abord, c'est totalement faux. Je commencerai mon propos en vous disant qui peut imaginer un seul instant, si vous voulez, après les accusations graves dont j'avais aussi été victime au moment où j'ai lancé la cagnotte pour le policier Florian qui a neutralisé Naël à Nanterre, puisque j'avais été également accusé d'escroquerie en bande organisée à l'époque. J'avais eu plusieurs saisines du procureur, article 40 du Code de procédure pénale, par des députés de la France insoumise. Et la famille de Naël avait porté plainte contre moi. Et quelques mois plus tard, alors même que toutes ces accusations avaient fait grand bruit au même titre qu'aujourd'hui, quelques mois plus tard, toutes ces plaintes avaient été classées sans suite et sans fondement. Qui peut penser un instant qu'en ayant ouvert une cagnotte pour ces deux héros de la nation, j'aurais pu me dire dans mon coin, tiens, je vais prendre l'argent, ni vu ni connu. Les familles des victimes ne s'en apercevront pas. La cagnotte n'est pas du tout médiatisée. Les médias ne s'en apercevront pas. Et tout ça va passer crème. Avouez quand même que je veux bien que les gens me détestent, les gens de la gauche me détestent, mais je n'aimerais pas croire qu'ils me prennent pour un imbécile ou un demeuré. Bon, donc ça, c'est un élément principal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il s'agit, et j'ai toutes les preuves pour le démontrer, il s'agit d'une erreur de fonctionnement interne, d'une défaillance des procédures de GoFundMe qui ont entraîné...
Donc GoFundMe, donc la plateforme donc, sur laquelle vous avez l'argent donc, a été récolté, 42 000 euros. Et effectivement, donc, il devait revenir, je précise, donc, à deux veuves, c'est ça, hein, de surveillants tués lors de l'évasion de Mohamed Amra à Incarville. Donc on se rappelle, hein, cette évasion qui avait été particulièrement médiatique. Donc vous, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on va refaire un petit peu le chemin, mais vous lancez une cagnotte à ce moment-là pour soutenir ces victimes. 42 000 euros sont récoltés assez rapidement, d'ailleurs, je crois, hein, c'est en quelques semaines, il me semble. 42 000 euros sont récoltés, et en réalité, c'est vrai que ça fait quand même maintenant plus de deux ans que c'est arrivé, en l'occurrence, comment ça se fait qu'après deux ans, les victimes n'aient toujours pas reçu l'argent, et même, je vais aller plus loin, Jean Messia, c'est que comment ça se fait que vous ne vous soyez pas assuré que les familles des victimes aient reçu l'argent.
Pour une raison simple, c'est que lorsque nous initions cette cagnotte, les familles des victimes ne sont pas connues. Donc, je fais des recherches intenses avec mes équipes pour essayer de les retrouver. Nous contactons des syndicats pénitentiaires en vain. Donc, nous ne connaissons pas à ce moment-là l'identité des victimes. Mmh. Qu'est-ce qui se passe? C'est que près d'un an et demi après, je reçois le coup de fil d'un avocat qui me dit « Voilà, je suis le représentant de l'une des familles des victimes. J'aimerais savoir d'abord si l'argent est toujours sur la cagnotte. » Je lui dis oui. Donc, si vous voulez, il n'y a pas. D'abord, c'est 2 ans, oui, mais 2 ans à quelles conditions? 2 ans, au cours de la première année et demie, les victimes sont inconnues. Nous n'avons pas leur identité précise et nous n'avons pas de contact direct avec elles. Or, je vous précise que la cagnotte a pour bénéficiaire tiers, non pas Jean Messia, mais un bénéficiaire dûment identifié en la personne de ces 2 victimes. Mmh. Donc, déjà, on peut s'interroger de savoir comment GoFundMe, qui évidemment sait que cette cagnotte n'a pas été ouverte pour moi, mais a été ouverte par des victimes, pour des bénéficiaires désignés. Le cœur de métier d'une cagnotte, c'est quand même, pour rassurer ses donateurs, à tout le moins, c'est de vérifier que les dons collectés pour une cause ou pour une personne aillent à la cause ou à la personne. Et à supposer qu'il y ait eu une erreur de départ, il aurait dû y avoir une alerte pour faire en sorte que ces fonds soient arrêtés d'être transférés sur le mauvais compte. C'est ce que d'ailleurs prévoient les conditions générales de GoFundMe.
Mais attendez, excusez-moi Jean Messia, il y a quand même quelque chose qui là-dessus, c'est que vous pouvez pas, en fait, si vous créez une cagnotte donc pour récolter l'argent, c'est pas à GoFundMe de trouver les bénéficiaires, de trouver le RIB des bénéficiaires.
Non, c'est à moi, mais en attendant de trouver le RIB des bénéficiaires, normalement GoFundMe doit conserver les fonds sur sa plateforme. Attendez, vous croyez quoi? Vous croyez que parce qu'on n'identifie pas le bénéficiaire, ça les autorise à transférer l'argent que des donateurs ont donné par des bénéficiaires particuliers à les transférer à n'importe quel bénéficiaire? Ça ne tient pas la route. C'est leur cœur de métier de vérifier ça.
Mais alors Jean Messia, okay, d'accord, mais dans ce cas, expliquez-nous sur cette affaire, comment déjà quand ces 42 000 euros sont arrivés sur votre compte, parce que selon le Parisien, ils auraient été transférés sur plusieurs virements différents entre mai et juin 2024, donc juste après que vous aviez récolté l'argent.
Alors, il se trouve que, si vous voulez, j'ai lancé 4 cagnottes en tout. Il y a la cagnotte pour la famille du policier de Nanterre.
Oui, Florian.
Il y a courant décembre 2023, donc quelques mois seulement avant le lancement de cette cagnotte pour les familles des victimes d'un Carville, je lance, rappelez-vous, ma propre cagnotte qui fait suite à la décision de l'ARCOM de me censurer des plateaux de télévision. Et qui donc génère pour moi des frais considérables, des frais de justice considérables pour attaquer l'ARCOM au Conseil d'État, en plus de toutes les autres procédures judiciaires qui sont ouvertes à mon encontre dans ce que j'appelle un djihad judiciaire, dont l'objectif est de me rincer financièrement pour m'empêcher de parler. Donc je lance une cagnotte en décembre, et donc à ce titre,
Vous récoltez combien d'euros sur cette première cagnotte?
En tout, je récolte 140 000 euros.
D'accord.
Sur plusieurs mois, attention. Ouais. Et donc, si vous voulez, le problème, c'est que lorsque GoFundMe commence à virer les fonds de la cagnotte d'un Carville sur mon propre compte personnel, il ne le fait pas en une fois. Évidemment que si il vire 42 000 euros d'un coup, on peut se poser la question, encore que moi, à ce moment-là, j'ai une cagnotte qui génère aussi des virements de tous les ordres, oui. Des virements importants comme des virements moyens, comme des virements petits. Comme le libellé du virement est le même, c'est-à-dire GoFundMe, vous n'avez aucun moyen de savoir à ce moment-là qu'il y a une autre cagnotte qui est en réalité transférée sur votre compte. Et GoFundMe dit, nos conditions générales prévoient que lorsque nous avons le relevé d'identité bancaire de l'organisateur de la cagnotte, en l'occurrence moi, eh bien, des virements automatiques commencent sur le compte de l'organisateur de la cagnotte, mais ils doivent être automatiquement stoppés tant que le bénéficiaire in fine de la cagnotte n'est pas renseigné, ce qui est ce cas. Donc, malgré le fait que le RIB du bénéficiaire, c'est-à-dire des familles des victimes, n'ait pas été renseigné, GoFundMe m'a viré par micro-paiement sur plusieurs mois le montant de cette cagnotte.
Oui.
Donc, ce que je veux dire, c'est que moi, je n'ai jamais été bénéficiaire de cette cagnotte. Je n'ai jamais demandé, évidemment, à l'être. Et il s'agit tout bonnement d'une défaillance interne de GoFundMe qui me met aujourd'hui dans une situation extrêmement compliquée, qui me met dans une tourmente. Donc, évidemment que je vais porter plainte contre GoFundMe afin que ces dysfonctionnements n'apparaissent jamais.
Jean Messia, alors encore une fois, je veux juste apporter tous les éléments aussi, c'est qu'il y a en fait. Là où ça devient encore plus, enfin votre défense devient encore plus compliquée quelque part. Enfin, pardon, hein, mais c'est que il y a une deuxième cagnotte aussi sur laquelle il y aurait un litige. Donc ça, pour le coup, c'est la cagnotte justement pour au niveau du patron, un gérant donc d'un Geox qui avait refusé une femme voilée qu'il avait filmée à son insu. Et donc lui, ce gérant de Geox, avait reçu une vague terrible de menaces de mort. Et à ce moment-là, vous lancez également une cagnotte. Donc ça, c'est la troisième.
Je vais vous en parler.
Et justement, cette cagnotte, donc pour le coup, récolte 60 000 euros de son côté. Or, là pour le coup, c'est une information de BFM TV, mais le gérant de l'adite, de ce Geox, n'aurait jamais reçu lui aussi les 60 000 euros. Donc ça se passe en avril 2024. Donc ça veut dire, Jean Messia, et c'est là que c'est, pardon, mais enfin pardonnez-moi, mais ça devient un peu difficile de vous suivre là-dessus, c'est que vous recevez entre avril 2024 et fin juin 2024, 100 000 euros sur votre compte liés à cette cagnotte, ce qui est quand même une somme extrêmement conséquente, vous ne vous en apercevez pas ?
Mais c'est faux, je n'ai jamais reçu les 60 000 euros dont vous parlez.
Alors où sont-ils ?
Sur la cagnotte GoFundMe, c'est-à-dire j'ai la preuve puisque GoFundMe me dit que les fonds sont toujours cagnotte.
Mais alors pourquoi ceux de la cagnotte de Geox sont toujours sur le site GoFundMe et pas les autres ?
Merci de m'apporter de l'eau à mon moulin. Ça veut bien dire qu'il ne s'agit pas d'une procédure ordinaire de GoFundMe que de transférer les fonds d'une cagnotte sur le RIB de l'instigateur de la cagnotte, mais qu'il s'agit bien d'un dysfonctionnement pour la bonne raison. Et merci de me donner l'opportunité de le dire, puisque c'est moi qui ai dit qu'il y avait une cagnotte pour le gérant de Geox qui ne s'est jamais manifesté, qui, d'après nos informations, a même refusé de recevoir la cagnotte, parce que vous savez, quand Jean Messia, qui est une personnalité politique que les médias de gauche et les médias antinationaux classent à l'extrême droite, organisent une cagnotte, certaines personnes estiment que recevoir cette cagnotte, c'est aussi un geste politique.
Mmh.
Donc le gérant de Geox, que nous avons également, avec mes équipes, passé un temps fou à essayer de contacter, donc la boutique ne nous répond pas, et la boutique nous a même répondu qu'il ne voulait plus rien savoir de cette affaire et qu'il ne voulait pas l'argent.
Mmh.
Donc le RIB du bénéficiaire de cette cagnotte n'ayant jamais été rentré, l'argent est toujours disponible auprès de la cagnotte de GoFundMe et n'a jamais été viré à personne.
Alors, Jean Messia, pardon, il y a un journaliste qui s'appelle Clément Garin, donc qui est spécialiste plutôt des médias, qui lui a exhumé un de vos tweets donc du 18 avril 2024 dans lequel vous dites mot pour mot, je cite, de toute façon quand on ouvre une cagnotte, on l'ouvre avec le RIB du bénéficiaire. Il n'y a pas de tierce personne entre le donateur et le bénéficiaire final. Donc ça veut dire que quand vous ouvrez une cagnotte, théoriquement, c'est avec le RIB du bénéficiaire. Donc ça veut dire que en réalité, par exemple pour le patron, enfin en fait pour le patron de Geox, comme pour les deux autres personnes, ça veut dire que vous ouvrez les cagnottes. En fait, encore une fois, vous dites c'est avec le RIB du bénéficiaire, mais si cet argent a été transféré sur votre compte, c'est que vous étiez le bénéficiaire d'une certaine façon. Et
c'était une façon de parler dans le cadre du tweet. Ce que je voulais dire, c'est que quand on ouvre une cagnotte, la cagnotte ne peut pas être transférée si on rentre pas le RIB du bénéficiaire in fine. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, à aucun moment, celui qui lance la cagnotte ne reçoit les fonds pour les revirer ensuite aux bénéficiaires. Ça se passe pas comme ça. Pour la cagnotte de Florian, qui a récolté, je rappelle, quand même 1 650 000 euros, les fonds n'ont jamais été transférés avant que la femme du policier nous transmette, en tout cas, nous avons transmis le lien à la femme du policier qui s'est manifestée et qui a elle-même entré son RIB et sa pièce d'identité.
D'accord.
Donc, les choses sont sécurisées. C'est pour ça que je vous dis que, aussi bien pour la cagnotte de Florian que pour la cagnotte du gérant de Geox dans un autre goût, puisqu'il n'a pas, il ne s'est pas manifesté, donc il n'a pas reçu l'argent, c'est bien ça qui fait paraître le fait que le virement par micro-paiement des fonds de la cagnotte des victimes d'un Carville est une anomalie. C'est un dysfonctionnement de GoFundMe qui n'a jamais été opéré sur les autres cagnottes que j'ai effectuées. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je ne comprends pas, si vous voulez, que GoFundMe, qui connaît la sensibilité des cagnottes que je lance, parce que je rappelez-vous que pour la cagnotte de Florian, pour la famille de Florian, GoFundMe avait été aussi dans la tourmente.
Oui, bien sûr.
Ils avaient été harcelés avec des messages comminatoires leur demandant de fermer ce qu'ils appelaient la cagnotte de la honte. Donc GoFundMe n'est pas sans savoir la sensibilité des cagnottes que je lance. Donc ils auraient dû redoubler d'efforts pour cadrer la procédure et pour baliser les contrôles pour faire en sorte que les choses se passent bien. Or, ça n'a pas été fait.
Donc, en fait, si j'essaye de résumer, donc, pour la cagnotte de Geox, actuellement, déjà, ça signifie que vous êtes dans une impasse. Parce que vous êtes dans une impasse dans le sens où, effectivement, il y a 60 000 euros qui ont été donnés par les gens qui se sont retrouvés donc bloqués sur cette cagnotte. Et en réalité, si le gérant n'en veut pas, qu'est-ce qui va leur arriver à ces 60 000 euros?
C'est très simple, les donateurs donnent pour une cause, encore une fois, c'est à la plateforme, c'est son cœur de métier, de faire en sorte que les fonds soient versés sur le compte de la personne pour laquelle la cagnotte est ouverte. Là, la personne, ne s'étant pas manifestée et ayant déclaré, selon mes informations, ne pas vouloir de la cagnotte reste ouverte pendant 2 ans. Si au bout de 2 ans, les fonds ne sont pas récoltés, les donateurs sont remboursés.
D'accord. Et alors pour donc maintenant la cagnotte des victimes d'un Carville, donc 42 000 euros qui ont été encore une fois selon vous versés sur votre compte sans que vous en aperceviez à cause donc de la cagnotte que vous aviez lancée pour vous-même en décembre. Je résume les faits. Voilà.
Oui.
Ça veut dire que ces 42 000 euros actuellement vous les avez. Qu'est-ce que vous allez en faire?
Je vais vous dire quelque chose. À quelque chose malheur est bon parce que. La cagnotte ayant été ouverte au mois de mai 2024, normalement, au bout d'un an, sans bénéficiaire renseigné, les donateurs devaient être remboursés.
Ah, vous avez dit 2 ans juste avant, c'est 1 an ou 2 ans?
Oui. Alors c'est 2 ans, c'est 1 an avec prorogeable d'une année supplémentaire. Donc moi, je l'avais prorogé évidemment parce que je n'ai jamais perdu espoir de retrouver les bénéficiaires. Donc, le délai de forclusion de cette cagnotte était il y a quelques jours, il y a 15 jours. Donc, si.
D'accord, donc c'est pour ça que toute cette affaire sort maintenant.
Non, c'est pas pour ça que toute cette affaire sort maintenant. Cette affaire sort maintenant parce que, comme je vous l'ai dit, l'avocat s'est manifesté en me disant voilà, je suis l'avocat, c'était il y a quelques mois, c'était en fin d'année dernière. Il y a un autre problème auquel nous avons dû faire face et qui a retardé. Un peu également la découverte de ce problème, c'est qu'ils sont 2 bénéficiaires. Or, GoFundMe n'autorise le virement sur le compte que d'un seul bénéficiaire. Donc, il a fallu que je demande à l'avocat représentant une seule des parties de signer un protocole avec l'autre partie autorisant l'une des parties à récolter les fonds pour les deux. Parce que vous pensez bien que si l'une des parties reçoit l'argent et qu'elle lèse l'autre, c'est moi qui suis, encore une fois, dans la panade. Donc, nous avons obtenu
Vous l'aviez récolté, cet argent, entre-temps.
Mais oui, mais à ce moment-là, moi, je ne le savais pas.
D'accord.
Ce n'est qu'en interrogeant GoFundMe après l'obtention de ce protocole par l'avocat le 9 avril dernier, c'est-à-dire il y a un mois, lorsque la bénéficiaire a fini par rentrer son IBAN et sa pièce d'identité, preuve que ces champs n'avaient jamais été renseignés auparavant, que la cagnotte qui était toujours affichée à 44 000 euros, lui dit la cagnotte, le fonds restant à virer, 0.
D'accord.
Donc moi, je tombe de l'armoire, je demande immédiatement des explications à GoFundMe. Je pensais spontanément et en toute bonne foi que les donateurs avaient été remboursés, en fait. Et c'est pour ça que la cagnotte était vide. Et donc, GoFundMe nous explique tranquillement qu'ils ont viré effectivement l'argent sur un compte dès le mois de mai 2024. Je demande sur quel compte, puisqu'il n'y a pas de bénéficiaire désigné, je demande sur quel compte cette somme a été virée. Et ce n'est en réalité qu'il y a 3 semaines, même pas 2 semaines, que nous découvrons que cet argent a été viré par micro-paiement sur plusieurs mois, en même temps que les virements de ma propre cagnotte sur mon compte en mai 2024. Une fois que je sais ça, j'informe immédiatement par l'intermédiaire de l'avocat et en direct à la veuve bénéficiaire que l'erreur de GoFundMe sera corrigée et que je vais procéder avant la fin du week-end de cette semaine au virement de l'intégralité des fonds. Bon. Mais ça, c'est une information qu'il savait avant de médiatiser l'affaire.
Ouais.
En réalité, l'avocat des familles, c'est un avocat qui est ouvertement ennemi de la cause nationale. C'est un avocat qui a instrumentalisé les victimes pour les pousser à porter plainte, sans doute parce qu'il est en quête de notoriété et d'honoraires. Ça lui a permis de passer sur BFM hier. Il a d'ailleurs dit, écoutez ce qu'il dit, il dit l'important, c'est pas que les familles perçoivent l'argent, l'important, c'est de faire condamner Jean Messia.
Ouais.
On peut pas être plus clair. On
va conclure là-dessus, Jean-Messia. On arrive à la fin du temps. Je pense que, bon, une leçon qu'on peut en tirer aussi, c'est que peut-être que la prochaine fois que vous lancez une cagnotte, être sûr d'avoir le RIB du bénéficiaire, sans doute que ça évitera bien des problèmes. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu de manière franche et sans détour à ces questions qui l'étaient tout autant, je pense, franches et sans détour. Écoutez, on souhaite apprendre évidemment la semaine prochaine que les victimes auront bien reçu l'argent de cette cagnotte. Mais merci d'avoir été avec nous pour répondre à ces questions, Jean Messia. Et on vous dit à bientôt ici sur Ligne Droite. Et tout de suite, la chronique de SOS Chrétien d'Orient.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Et pour cette chronique, nous retrouvons Benjamin Blanchard. Benjamin Blanchard, vous êtes directeur de l'association SOS Chrétien d'Orient. Et puis en plus, vous êtes patron d'émission ici. Donc nos auditeurs vous connaissent. Bonjour.
Bonjour Alexandre de Galzin.
Alors vous vouliez revenir sur les pèlerinages de Pentecôte.
Et oui Alexandre, il ne vous aura pas échappé que, comme chaque année pour la Pentecôte, les Français étaient nombreux à marcher et prier sous le beau soleil de la Beauce. Alors bien sûr, il y avait les 20 000 pèlerins qui marchaient de Paris à Chartres avec Notre-Dame de Chrétienté pour le 43e pèlerinage organisé par cette association. Alors je ne voudrais pas oublier également les presque 7 000 pèlerins qui marchaient de Chartres à Paris avec le pèlerinage de tradition organisé par la fraternité Saint-Pédis. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que, bien sûr, c'est important, et puis parce qu'à SOS Chrétien d'Orient, notre chapitre Saint-Bénam et Sarah étaient présents, comme chaque année, depuis 10 ans. Donc il y avait une quarantaine de pèlerins qui, pour la plupart, d'ailleurs c'est notable, découvraient la messe traditionnelle ou n'y sont pas familiers. Alors cette année, hélas, je ne pouvais pas participer, mais il y avait Adèle Rosner, que vous connaissez bien, qui me remplaçait.
Qui passe demain au bureau, d'ailleurs, on a hâte de la retrouver.
Voilà. Et alors, une chose notable, ces pèlerins de SOS Chrétien d'Orient marchent avec les drapeaux des pays et des régions dans lesquelles SOS Chrétien d'Orient est présent. C'est une manière d'associer ces pays et au pèlerinage et aussi d'inciter les pèlerins à ne pas les oublier et à prier pour les chrétiens de ces pays. Puis également, je suis très fier de compter parmi nos équipes du siège de l'association des pèlerins dans pratiquement toutes les catégories de pèlerins à Notre-Dame de Chrétienté. Donc bien sûr, de nombreux pèlerins dans la colonie colonnes adultes dans différents chapitres, mais également des pèlerins qui étaient là en famille, dans les chapitres famille, et puis dans les services, que ce soit l'accueil ou les haltes, la communication ou la direction des pèlerins.
Mais alors, SOS Chrétien d'Orient organisait également des pèlerinages en Orient.
Et voilà, parce que Notre-Dame de Chrétienté, depuis des années, propose de participer aux pèlerinages différemment. Ça s'appelle les chapitres anges gardiens, et donc c'est pour les gens qui ne peuvent pas participer en marchant, soit pour l'éloignement ou pour la condition physique. Et donc, les anges gardiens s'associent au pèlerinage en suivant un peu le même rite de prière et d'enseignement que les pèlerins qui marchent. Mais ils font ça depuis chez eux ou dans leur paroisse. Il y a dans certains chapitres anges gardiens qui se réunissent, qui se regroupent dans leur paroisse. Et en fait, depuis 2017, SOS Chrétien d'Orient participe également à ce pèlerinage à distance dans les différents pays où SOS Chrétien d'Orient agit. Donc en fait, c'est des mini-pèlerinages. Alors à l'origine, c'était avec les volontaires de l'association uniquement. Donc en fait, c'est un peu des chapitres anges gardiens un peu particuliers puisqu'ils marchent également. Alors c'est bien sûr, c'est adapté au climat ou aux mœurs locales. Donc parfois, c'est un peu, voire beaucoup moins de kilomètres que les pèlerins de Paris à Chartres ou de Chartres à Paris.
Qu'il faisait quand même sous 35 degrés aussi.
Voilà, voilà. Après, par exemple, ça peut être 40 ou 50 en Irak dès à présent. Alors au début, comme je le disais, c'était seulement pour les volontaires. Et puis depuis quelques années, à l'initiative de notre équipe en Irak, ça a pris de l'ampleur. En Irak, c'était Grégoire Baudry, le chef de mission à l'époque, qui était habitué du pèlerinage de Chartres. Et donc, il s'est dit, pourquoi ne pas proposer aux paroisses locales. Et donc, ça a pris de l'ampleur en Irak. Et depuis cette année, d'autres équipes dans d'autres pays s'y sont mis. Alors donc en Irak, c'était la quatrième année, il y avait 900 pèlerins de notre clergé nombreux. Et donc ils ont marché, alors c'était quelques kilomètres, mais il faisait très chaud, depuis le monastère Rabban Ormzid jusqu'au monastère Notre-Dame des Moissons. Tout ça, c'est à Al-Kosh, dans la plaine de Ninive. En Égypte, il y avait environ 150 pèlerins, dont un évêque catholique, une quarantaine d'orphelins, et qui ont marché dans le désert du Wadi Depla, c'est près du Caire. Et puis au Liban, il y avait également environ 150 pèlerins, notamment des déplacés du sud du Liban et des scouts, et ils sont partis du monastère Saint-Joseph de Jbrata, où il y a la tombe de Saint Rafka, jusqu'au monastère Saint-Cyprien et Sainte-Justine, où il y a également les tombes de nombreux saints, comme Saint Nimatula, bienheureux Stéphane Némé. Et puis enfin, en Arménie, il y avait, alors là, c'était une vingtaine de personnes, c'était surtout les volontaires de SOS Chrétien d'Orient et d'autres associations, et puis quelques paroissiens de la paroisse latine. Alors là-bas, c'était un peu plus physique. Hein, en Arménie, ils ont marché dans la montagne et, pendant deux jours.
Et alors, en quoi est-ce important de participer à ces pèlerinages?
Eh bien, c'est très important parce que il faut bien sûr marcher et prier, il faut se convertir, et donc cette démarche de pèlerinage qui a vraiment pris de l'essor grâce à Notre-Dame de Chrétienté en France depuis une quarantaine d'années, bah nous essayons de la remémorer à nos amis orientaux, de la remettre au goût du jour. C'est l'occasion de prier pour la France et puis également de prier pour tous les pays dans lesquels SOS Chrétien d'Orient travaille et pour les chrétiens de tous ces pays. Alors bien sûr, nous serons là également l'an prochain, en 2027, et puis d'ici là, nous serons également présents dans d'autres pèlerinages, donc j'invite les auditeurs de Radio Courtoisie à se joindre à nous, alors que ça soit en Espagne, à Covadonga, qui est un haut lieu de victoire contre les musulmans, le début de la reconquête en Espagne, du 25 au 27 juillet, et puis après à l'automne, vraiment il y en a pour tous les goûts, pour toutes les régions, fin septembre en Bretagne, le week-end suivant début octobre en Normandie, puis après en Provence 10 et 11 octobre, et puis enfin un petit nouveau en Île-de-France, Notre-Dame de la Mer, les 24 et 25 octobre. Donc nous serons présents avec vocables de Saint-Bénable et Sainte-Sara.
Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à prévoir un petit peu votre calendrier de pèlerinage annuel grâce à SOS Chrétien d'Orient. Merci beaucoup.
Surtout grâce à tous les organisateurs de ces pèlerinages qui sont vraiment remarquables.
Merci beaucoup Benjamin Blanchard et on vous dit à très bientôt ici sur Ligne Droite.
Bientôt.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Alors Gilles Brochard qui est de moins en moins avec nous ces temps-ci, on ne sait pas exactement, enfin il erre à travers le monde, nous laissant seul à Paris sous la chaleur.
Non.
Bon Gilles, vous bonjour déjà effectivement.
Bonjour Alexandre, bonjour Arnaud, bonjour chers auditeurs, je suis là avec vous et je serai présent lundi dans le studio.
Bon, alors vous avez lu l'éditorial d'Arthur de Vatrigan, le rédacteur en chef de L'Incorrect.
Oui, alors avec sa plume légère, Arthur de Vatrigan se veut à la fois optimiste et pessimiste. En fait, il a enveloppé son éditorial d'une douce lucidité. Le mal est profond, écrit-il, héritier d'un pays formé par des siècles de patience, de hiérarchie, d'usage, de limites et de fidélité. Nous vivons comme si cet héritage allait de soi, comme s'il pouvait subsister sans les vertus qui l'ont fait naître. Et un petit peu plus loin, Arthur de Vatrigan conclut « Le résultat est sous nos yeux, un homme mobile, mais seul, autonome et démuni, plus libre de choisir sa vie, mais incapable de savoir au nom de quoi la conduire. » Et avec un accent qui rappelle certains propos de Sylvain Tesson, le voilà qui écrit « Un paysage n'est pas seulement une géographie, c'est une civilisation devenue visible qui nécessite une discipline de regard et une modestie devant les choses. » Bref, cela suppose un peuple qui ne vit pas que pour sa gueule, mais ce peuple ne fait plus d'enfants. Il a administré mais ne transmet plus grand-chose. Le mois de mai ne sauvera rien. Il rappelle simplement avec une douceur souveraine que la beauté d'un paysage survit à la dignité des hommes. Fin de citation. Alors j'en profite pour vous recommander, dans le même numéro de l'Incorrect, le portrait qui est fait de Geoffroy Lejeune en moine, par Marc Obregon, dans le même numéro de mai de l'Incorrect. Il est assez rare d'ailleurs que le patron de la rédaction du journal du dimanche oui. donne des entretiens. Et il raconte notamment que lorsqu'il a commencé dans le journalisme, ses références étaient donc Éric Zemmour ou François-Olivier Gisbert. « J'ai beaucoup suivi l'UMP, un peu le Front National, j'ai même couvert les années Hollande avec passion. » Mais lorsqu'Emmanuel Macron a été élu, il s'est clairement passé quelque chose et tout le monde l'a senti, nous sommes passés dans une autre époque. Alors d'un coup, tout ce narratif soi-disant disruptif a jeté sur le monde politique d'avant une sorte d'ombre et je ne suis plus reconnu dans les discours ni dans les positionnements des uns et des autres. Alors Marc Obregon en vient à parler aussi d'une France polarisée dans laquelle la presse servirait uniquement de passe-plat entre une élite technocratique et une population vassalisée dans les grandes largeurs, incapable d'exister davantage sur le terrain des idées. Et comme le confie Geoffroy Lejeune, je n'ai pas connu les années Mitterrand, j'ai toujours eu l'impression de pouvoir dire ce que je voulais, mais avec mesure. Ce que je pourrais reprocher aux plus jeunes générations, c'est peut-être qu'elles manquent un peu de cadre. En revanche, ce qui est nouveau, c'est que la droite s'autorise enfin à avoir de l'humour. Donc à lire dans l'Incorrect du mois de mai.
Et puis Valeurs Actuelles de cette semaine consacre sa une à l'affaire du canon français.
Oui, alors on peut parler, on en a parlé aussi ici évidemment sur cette antenne, d'affaires, car on le sait, ces réunions de Gaulois gastronomes font débat et certains voudraient s'y opposer en les interdisant. Et comme l'écrit Hugues de Haldenis, les banquets du canon français auxquels personne n'est obligé de se rendre sont des événements festifs portés par un folklore à la fois traditionnel et bon enfant. On y boit du vin rouge, on y mange de la viande et l'on y chante des grands standards de la chanson française, à commencer par la stimulante chanson de Joe Dassin « Dans les yeux d'Émilie ». Ils vont donc tout nous voler jusqu'à notre art de vivre, criminaliser nos traditions, politiser à outrance la consommation de cochons, diaboliser Michel Sardou. Fin de citation, à lire l'éditorial dans Valeurs Actuelles.
Et puis, vous avez lu le dossier proposé par la revue Le Nouveau Conservateur qui en une titre, Souveraineté numérique, les carottes sont-elles cuites ?
Oui, alors un dossier animé par Paul-Marie Couteau et Guillaume de Thieulois avec plusieurs contributions, dont celle de Philippe Juvin, vous savez, qui est député européen du RN au Parlement européen et qui a écrit une tribune intitulée « Pour que vive la France, vive le localisme ». C'est un peu le mot à la mode, c'est vrai, mais le localisme est selon lui le moyen pour les Français de reprendre le pouvoir. C'est le seul projet qui rendra la France un gouvernement fort, légitime, capable de faire prévaloir la volonté des Français et l'intérêt de la France. Il écrit aussi que la question n'est plus de proposer une politique, mais de rendre possible toute politique qui soit celle de la France, celle que veulent les Français. Elle est de rendre un gouvernement à la France. Et il ajoute, comme théorie et pratique du pouvoir, le localisme est d'abord une politique des réalités, du monde tel qu'il est, et de la France comme elle veut être. Chacun peut le constater, la géographie est de retour dans l'histoire, cela compte d'être de quelque part, et la fin de la globalisation condamne l'illusion de ceux qui s'étaient crus au-dessus des frontières, des nations et des lois. Et pour Philippe Juvin, le localisme est à soutenir, car notamment les abus de pouvoir et l'accaparement de compétences de l'Union européenne mettent désormais en danger la sécurité et l'indépendance de la France. Ainsi pour Philippe Juvin, trop d'idées venues de décisions prises ailleurs, trop de choix hors sol, trop de conformité et d'alignement forcé. le local et le nom de la liberté politique. Voilà, cette chronique est à retrouver dans le numéro 30 du Nouveau Conservateur, disponible dans certaines librairies comme la Procure ou la librairie du Ken à Paris, ou à commander sur le site de la revue.
Et le Figaro littéraire salue des grands auteurs portugais.
Oui, alors en évoquant plusieurs ouvrages, notamment de Fernando Pessoa, à propos d'une biographie signée Richard Zenit au Seuil, dans un article signé par Bruno Corti, qui est parti sur ses traces à Lisbonne. Il écrit que Pessoa a inventé un slogan pour Coca-Cola en 1928. Le premier jour, quel goût étrange, le cinquième jour, ça s'arrange. Voilà, c'est assez étonnant, mais en tout cas, Salazar, qui était en place à l'époque, a ensuite fait interdire ce slogan pour incitation à la consommation de Coca-Cola. Et le poète, vous savez, est enterré aujourd'hui, enfin on le trouve entre Louise Camoens et Vasco de Gama. Alors lire aussi en dernière page un portrait magnifique de Max Jacob à travers deux livres qui font revivre le poète tourmenté depuis la butte Montmartre jusqu'au camp de la mort de Drancy, en passant par sa conversion au catholicisme. Les deux livres sont Saint-Max d'Olivier Razzini chez Actes Sud et Max Jacob et le jeune SS de Philippe Douroux chez Flammarion. Mais Alexandre, je vais attirer votre attention en terminant cette revue de presse par un article des Échos qui souligne que les commerces alimentaires dits alternatifs, qui comprennent, vous savez, les boulangeries, les stations-service, oui, les grandes surfaces, ça capte environ près de 20% du chiffre d'affaires de la restauration à domicile. Et on apprend qu'un concurrent inattendu s'est largement imposé dans les habitudes des Français pour la pause du déjeuner. C'est donc les boulangeries qui proposent non seulement des casse-croûtes, mais aussi des plats cuisinés, des quiches, des salades, des pokés, comme on dit, et des menus qui comprennent une pâtisserie, une viennoiserie, plus une boisson. Car la restauration traditionnelle est en baisse. Eh bien, figurez-vous que 8% des restaurants auraient mis la clé sous la porte cette année, ce qui est quand même un chiffre assez regrettable.
Oui, et puis d'autant qu'en fait, on peut rajouter comme information que, Marie, je crois que c'est enseigne Marie Blacher, voilà, qui est devenu le troisième réseau de distribution rapide, de restauration rapide, pardon, de France, après McDonald's et Burger King. 900 points de vente quand même, donc en réalité, c'est quand même plutôt positif dans ce sens. Alors même si ça reste évidemment pas de la boulangerie traditionnelle, mais enfin ça montre qu'il y a peut-être un petit renouveau, et c'est toujours évidemment de bien meilleur pour la santé.
Il y a de la qualité derrière, et puis il y a de l'artisanat. On va défendre tout ça, parce que je pense que en effet les boulangers comme les pâtissiers ont besoin d'être soutenus, mais on a besoin aussi peut-être pour cette restauration rapide de pas forcément passer par des grandes enseignes d'origine américaine.
Oui. Eh ben écoutez, on va finir là-dessus. Merci beaucoup Gilles d'avoir été avec nous. On vous dit à lundi. Merci chers auditeurs d'avoir suivi Ligne Droite. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Simplement, évidemment, il faut que je vous rappelle quelque chose avant que vous vous en alliez.
Je vous rappelle.
Oui, allez-y Arnaud, allez-y. Je vous laisse la parole.
Votre soutien financier est primordial à la survie de Radio Courtoisie. Donc, je vous enclins fortement à nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et d'adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75016 Paris. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Et tout de suite, on va réécouter Fabien Bouglet, électrification. Est-ce que c'est la solution magique de Macron ?
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler électrification. Est-ce que c'est la solution magique ? C'est en tout cas un petit peu ce que suggère Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui, très récemment, a réalisé une réunion avec ce qu'il a appelé l'équipe de France de l'électrification pour signer un pacte national d'électrification. Et pour parler de ce sujet, nous avons fait appel à Fabien Bouglet. Bonjour Fabien Bouglet.
Bonjour.
Alors vous êtes expert en politique énergétique, directeur de publication de la revue Transition et Énergie, auteur de plusieurs ouvrages également, mais là ce que vous publiez donc avec votre revue Transition et Énergie, c'est un nouveau numéro qui s'appelle Les ennemis de l'intérieur, merci Arnaud de l'afficher à l'écran, dans lequel effectivement vous revenez sur tous ceux qui quelque part représentent un danger au sein même de notre pays, à commencer par Emmanuel Macron lui-même.
Tout à fait.
Voilà, on reviendra peut-être un petit peu plus tard sur ce sujet, simplement pour venir tout d'abord sur le cœur de cette question de l'électrification. Donc ce pacte national d'électrification d'Emmanuel Macron, il arrive évidemment après à peu près 9 ans de mandat à tergiverser quant à la marche à suivre. Qu'est-ce que vous en avez pensé ?
Bah écoutez, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, et c'est encore le pompier pyromane. L'électrification des usages, c'est bien, si on prend en compte le fait que la facture d'électricité n'est pas chère. Or, depuis 2014, la facture d'électricité a été multipliée par deux. Et rappelez-vous, Sébastien Lecornu a annoncé et a promulgué la programmation pluriannuelle de l'énergie qui prévoit, et c'est un calcul que nous avons fait avec les différents experts sur les questions énergétiques, à nouveau une multiplication de la facture d'électricité par deux. Mmh. Et donc, décréter l'électrification des usages, décréter les interdits des chaudières à gaz, décréter l'obligation d'acheter des voitures électriques n'a de sens que si la facture d'électricité est basse.
En réalité, il n'y a pas d'obligation en réalité, c'est plutôt
vous avez
des objectifs de long terme. Mais
non, vous allez avoir l'interdiction des centrales au gaz et de l'usage du gaz. Mmh. Hein, c'est d'ailleurs les entreprises des travaux publics qui hurlent sur cette question. On a une multiplication de l'écologie punitive qui va contraindre et qui va obliger les Français à électrifier des usages pour lesquels une électricité est beaucoup trop chère. Et donc, ça renvoie, parce que tout est dans tout, ça renvoie à la question de la guerre de l'énergie. Parce qu'en réalité, ça fait 10 ans qu'on est en train de subir globalement une guerre de l'énergie. On a eu le choc gazier de 2021, on a eu la guerre en Ukraine, on a aujourd'hui la guerre en Iran. Et on a quoi ? Eh bien, on a une situation catastrophique. Mmh. On a d'une part les Français qui payent une essence toujours plus élevés à la pompe, avec des taxes qui s'imputent sur les factures d'essence. Et de l'autre côté, on a une facture d'électricité qui explose du fait, non pas de la guerre en Iran, non pas de la guerre en Ukraine, non pas du choc gazier, encore qu'un petit peu le choc gazier, mais du fait de nos politiques depuis 30 ans. Et donc, en réalité, ce à quoi nous sommes en train d'assister avec ces pompiers pyromanes, avec ces Marie-Antoinette de l'énergie. Je pense à cette phrase qu'on propose à Marie-Antoinette de dire « Vous ne pouvez pas manger de pain, mangez donc de la brioche ». Là, Macron, c'est « Vous ne pouvez pas utiliser de voiture à essence, utilisez des voitures électriques ». Mais les voitures électriques, c'est 7 fois, 8 fois le prix d'une voiture essence. Et donc, on est, depuis 30 ans, enfin peut-être 5 fois, mais ça coûte très très cher. Demander à quelqu'un du monde rural d'acheter une voiture électrique, aujourd'hui il est tellement rincé qu'il ne peut pas. Et aujourd'hui, en fait, tout cela est la conséquence de cette guerre de l'énergie et de l'action des ennemis de l'intérieur, des ennemis de l'intérieur que nous avons dévoilés, que nous dévoilons avec une synthèse d'un grand dossier qui est aussi la reprise d'éléments de plusieurs livres, parce que j'ai écrit un livre qui s'appelle « Guerre de l'énergie », Géraldine Vosner du Point a écrit un livre « Les illusionnistes », Henri Vallard a écrit également un livre sur le sujet. Nous avons, depuis 30 ans, des ennemis de la France qui agissent et qui détruisent notre système énergétique, système électrique et système énergétique. Et c'est ça qui est extrêmement grave. Et Emmanuel Macron fait partie de ces personnes qui ont contribué à la destruction de notre système.
Alors, on sera tout à fait d'accord là-dessus. En revanche, il y a une question qui se pose, c'est quand même que depuis quelques années, objectivement, depuis ces fameuses rencontres de Belfort, Emmanuel Macron s'est remis à évoluer dans un sens qui est plutôt positif. Je dis pas que ça s'est traduit par de grands actes et que les résultats sont là, mais dans le fond, on a changé un petit peu de l'État a changé un petit peu de philosophie au moins sur la question du nucléaire, en voulant déployer des mini EPR, effectivement achevant la centrale de Flamanville, en mettant d'autres objectifs un petit peu plus de long terme sur la production nucléaire. Dans le fond, est-ce que certes on va pas trop lentement, mais est-ce qu'on va pas dans la bonne direction finalement?
Vous croyez? On vient d'annoncer la continuation de du démantèlement tellement de Fessenheim. Mais attendez,
et Fessenheim, ça fait des années que c'est fermé.
Mais Fessenheim est encore possiblement en relance. Là, il y a eu des arrêtés pour finaliser le démantèlement de Fessenheim.
Il y a des débats quand même.
Donc,
sur le...
Il y a un débat. Non, Fessenheim, moi, vous savez, Transition et Énergie a un conseil scientifique de 8 spécialistes du CNRS, du Commissariat à l'énergie atomique, de Polytechnique, d'anciens dirigeants comme André Merlin, patron de RTE. Nous sommes en relation avec les ingénieurs. Vous pouvez pas dire d'un côté je relance le nucléaire et de l'autre acter la fermeture de Fessenheim, qui est une catastrophe économique. Mmh. On a 2 réacteurs nucléaires qui avaient encore 40 ans de possibilité, dont le prix est amorti, et aujourd'hui on se retrouve à fermer des centrales nucléaires qui fonctionnent et on va avoir un coup. Non, ça, je suis désolé, ça n'est pas une politique de relance du nucléaire. Et par ailleurs, pour les annonces de Belfort et les annonces des petits réacteurs modulaires, vous avez raison, c'est en 2021, lors du plan 2020. Mais ça fait 5 ans.
Oui, mais ça va dans le bon sens.
Mais à l'air, mais ça va pas du tout vite. On a une annonce de Belfort en 2022.
Disons que ça va dans le bon sens, mais pas vite.
Mais attendez, Pierre Messmer, quand il lance le plan Messmer en 74, en 15 ans, ils ont construit 58 réacteurs nucléaires. Mmh. 20 ans à peu près. Mmh. Donc si vous voulez, il faut arrêter. Et c'était il y a 50 ans. Donc si vous voulez, on peut pas dire, avec la technologie d'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui, on peut pas dire que c'est une réussite lorsque le président de la République annonce dans les annonces de Belfort en 2022, on va relancer le nucléaire, et qui nous fait comme annonce, on va relancer le nucléaire et on va installer 6 réacteurs nucléaires supplémentaires, et 8, ça fait 5 ans qu'on les a déjà annoncés. Mmh. Il faut d'urgence un plan de nucléarisation de la France, un plan de relance de l'hydrogène. D'ailleurs, j'ai fait un exposé de ma pensée sur la relance. Il faut développer l'hydrogène blanc en complément. Il faut supprimer la loi Hulot. Vous vous rendez compte qu'on a l'incapacité d'étudier les sous-sols français. On a des réserves de pétrole en Guyane. Mmh. On a des réserves de pétrole en France. Donc, si vous voulez, c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'incantations, mais on n'a pas beaucoup d'actions énergétiques.
Je vais recentrer un petit peu sur le sujet de l'électrification, parce que c'est ce qui nous occupait à l'origine. Avec toutes les nouvelles technologies, comme évidemment le Bitcoin, ou alors l'IA, ou alors justement les nécessités justement de, par exemple, les adaptations au réchauffement climatique, ou toutes ces choses-là, avec la climatisation, par exemple, on sent qu'on a quand même de plus en plus besoin d'électricité pour développer toutes ces technologies. Donc, est-ce que l'électrification, de toute façon, c'est toujours le futur dans ce sens-là?
Oui, alors, en fait, ça dépend ce qu'on appelle électrification des usages. Vous avez parfaitement raison. L'électricité pour la France, ça a été un avantage géopolitique considérable. Ouais. Il faut se rappeler le plan Messmer en 1973, j'en parlais tout à l'heure, après le choc pétrolier qui a été lié à la guerre la guerre du Kippour, quand les pays du Moyen-Orient, comme l'Iran aujourd'hui, utilisent le pétrole comme arme de guerre. Le pétrole est multiplié par 4. Et comme la production électrique en France est basée sur les centrales au fioul, eh bien, on va électrifier l'électricité avec du nucléaire pour ne plus dépendre des énergies fossiles. Mmh. Et donc, aujourd'hui, presque 100%, il y a un petit pouillem de gaz, mais presque 100% de notre production d'électricité ne dépend pas de nos importations d'énergie fossile. Et ça, c'est l'électrification nucléaire et l'hydroélectricité. Et donc, effectivement, si on élargit ce qu'on appelle l'électrification des usages, c'est-à-dire l'électricité représente à peu près 25% de notre mix énergétique, puisqu'on a besoin d'essence pour le chauffage, pour les transports, pour le chauffage urbain, etc. Eh bien, on va, en élargissant notre capacité d'électricité, en faisant en sorte qu'on remplace l'électricité, le fioul par l'électricité, on va justement
pour le chauffage,
permettre.
Par exemple,
exactement.
Voilà.
Mais il y a d'autres techniques. Il y a la géothermie.
Oui.
La géothermie qui permet d'utiliser et d'éviter le gaz. Mmh. Et puis, vous avez effectivement le chauffage. Vous avez différentes techniques. Et ça, c'est une bonne chose. Mais électrifier les usages à partir de bases d'électricité intermittentes, c'est une très mauvaise chose. Mmh. C'est pour ça qu'il faut développer un nucléaire couplé à l'hydroélectricité et des capacités pour les pics de consommation. C'est pour ça, si vous voulez, que on a aujourd'hui une politique énergétique qui oriente vers l'électrification des usages, mais qui donne des réponses qui sont totalement inappropriées et qui vont totalement dans le sens inverse recherché. Parce que derrière, ce qui est recherché dans le fait d'utiliser l'électricité, c'est la souveraineté énergétique du pays. C'est de ne plus dépendre de nos importations d'énergie.
Vous faites un petit peu la transition, Fabien Bouglé, parce que imaginons une France où effectivement voilà, le nucléaire se relance et finalement on travaille dans ce sens-là. Je vais prendre un exemple très concret dont on parle beaucoup, les voitures et les camions électriques.
Oui.
C'est-à-dire qu'on sait que par exemple le fret ferroviaire pourrait remplacer une bonne partie des camions si jamais il était développé. Ça, c'est dans le nucléaire. En revanche, pour les voitures, est-ce que l'autonomie dans la consommation de carburant, donc d'électricité, pour les voitures, pourrait compenser la dépendance nouvelle qu'on se créerait vis-à-vis des terres rares pour la construction des voitures?
Ah ben c'est le sujet, vous avez raison. C'est-à-dire que en essayant de régler un problème, on en crée un nouveau.
Voilà.
Voilà. Donc,
mais est-ce que ça vaudrait
ça, c'est
le
un autre problème.
Part,
oui. Ben, c'est l'autre problème. C'est quelles sont nos dépendances avec l'électricité. Mais moi, je crois que, bien sûr, qu'il y a l'électrification des véhicules. Ça, c'est une chose. Mais vous avez tout un tas de, sur les 2500 TWh d'énergie, tout compris, vous avez 2000 TWh. Vous avez pour les 2000, c'est-à-dire, c'est ces 2000 qu'on va essayer de transformer d'énergie fossile en électricité. Mmh. Vous avez, comme je le disais, je suis désolé de me répéter, mais vous avez la géothermie qui va permettre d'éviter, et ça c'est sur notre sous-sol. Mmh. Vous avez l'hydrogène blanc. Mmh. On a un des plus grands gisements d'hydrogène blanc en Europe, voire dans le monde, en France. Donc on a la capacité, et personnellement, je ne suis pas pour la fin des voitures énergies fossiles. Je pense qu'on aura toujours besoin, le monde aura toujours besoin, sauf si on trouve une pile miniaturisée. On va peut-être demain trouver des systèmes de piles miniaturisées.
Mais ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas sauter sur sa chaise comme un cabri en criant électrification.
Exactement. Ouais. Il faut aussi relancer l'étude de notre propre énergie fossile. Il faut qu'on trouve des solutions pour avoir du gaz et du pétrole. Et on en a. Et c'est inacceptable qu'on ait interdit. Et ça, c'est Nicolas Hulot qu'on évoque d'ailleurs dans le magazine Transition Énergie, Guerre de l'énergie, les ennemis de l'intérieur. C'est Nicolas Hulot qui a empêché qu'on étudie. En Guyane, on a une des plus grandes réserves de pétrole mondiale.
Alors ça, c'est quand même très clairement sujet à débat, vous le savez bien, parce que normalement, la plus grosse partie appartiendrait plutôt au Suriname, et en réalité, la partie qui appartiendrait à la France serait quand même très limitée.
Mais... En tout état de cause, il faut qu'on puisse exploiter notre propre énergie fossile.
C'est vrai qu'on ne peut pas savoir, ça, c'est
sûr. Et si on parle d'écologie, hein, Madame Tondelier ou Madame Rousseau, faut-il une énergie beaucoup moins impactante en termes de réchauffement climatique française ou du gaz naturel liquéfié américain qui est deux fois plus polluant que le gaz de schiste qui serait exploité en France. C'est une question aussi climatique. Et puis, se pose la question, faut-il s'interdire d'exploiter nos propres ressources énergétiques dans notre pays alors que la Chine ou les États-Unis sont en train d'exploser leur gaz à effet de serre. Alors si la France met des éoliennes pour compenser 2% des augmentations de gaz à effet de serre de la Chine ou des États-Unis, à quoi ça sert que la France se tire une balle dans le pied ? Par exemplarité, par souci de sauver la planète alors que les autres sont en train de la détruire. La France ne peut pas rester dans le caniveau de l'histoire, sur le côté. La France doit assumer son rôle de grand pays, et en particulier de grand pays nucléaire.
Voilà, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va s'arrêter là-dessus. Fabien Bouglet, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous avez publié donc ce nouveau numéro, si Arnaud peut l'afficher une dernière fois. Voilà, Guerre de l'énergie, les ennemis de l'intérieur. Voilà, chez Transition et Énergie, de juin à août. Donc vous avez 3 mois pour vous le procurer.
Aujourd'hui en kiosque.
Chers auditeurs, voilà, aujourd'hui en kiosque, on a cette
exclusivité. Ou sur notre site internet.
Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt, Fabien Bouglet.
À bientôt, merci.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galza.
Chers auditeurs, c'est la fin de Ligne Droite, c'est la fin de cette matinale de ce jeudi 28 mai. Merci d'avoir été avec nous, ça a été un plaisir d'animer cette matinale. Simplement, si je veux, eh bien, si vous voulez faire un effort pour moi et procurer mon plaisir à animer de telles matinales, eh bien, je vais vous. Enfin, Arnaud va vous demander d'ailleurs quelque chose à ma place.
Merci Alexandre. Oui, effectivement, si vous souhaitez soutenir Radio Courtoisie, vous pouvez le faire de deux façons. Tout d'abord, nous faire des dons en ligne sur soutenir.rc.fr et également en envoyant vos chèques à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, merci beaucoup Arnaud. Quel est le programme du jour ?
Tout à l'heure, enfin plutôt dans un instant, à 10h, Art et Affinité, dirigé par Marie-Christine Lanier. À midi, en direct, le Libre Journal du Cinéma, dirigé par Philippe-Henri Rambaud, pardon, Nicolas Destienne-Dorve, romancier cinéphage. En direct, à 14h, La Tête hors de l'eau, dirigé par Catherine Rouvier, français. Marianne n'est pas ta mère et cherche dans l'opéra et la littérature l'âme de la France. À 15h30, le Libre Journal du Monde de la Foi de Nicole Pilorge. Puis à 17h, Sans Soum Corda de l'abbé Mathieu Raffray, consacré à la Bible ce soir. À 17h30, en direct, Restons Courtois, dirigé par Marc Henault. À 19h30, le Libre Journal de Chrétienté, dirigé par Guillaume de Tannoir, avec une interrogation autour des sacres d'évêques pour les traditionalistes. Et puis à 21h30, le Libre Journal de la France Profonde, émission dirigée en direct par Thibaut de Chasset. Un hommage au frère Thierry, des nouvelles des vitraux de Notre-Dame de Paris avec Maxence Écart, président de l'association de défense du site de Notre-Dame. Et puis enfin, Francine Bay pour son livre « La très belle histoire des cloches ».
Eh ben ça fait envie tout ça. Merci beaucoup Arnaud. Et puis moi de mon côté, je vous dis à demain, matinale animée par Richard de Cesse, dans laquelle je vous retrouverai pour ma chronique blague. À demain.
À demain.